Aujourd'hui dans Sur les Docks, nous allons suivre les interrogations de Nejma Bouakra quand elle a regardé la ville la nuit. Elle dit « Pas de filles dans la rue à Paris après le dernier métro, mais si, les filles immobiles là ». Oui, des filles qui font le trottoir, il y en a, mais ceux qui tiennent la rue, ce sont plutôt des gars adossés au mur, qui trafiquent à l'école de la rue ou papotent. Ils sont comme chez eux, dedans ou dehors, qu'importe, la question ne se pose pas. Les filles qui déambulent la nuit, c'est plus rare. Elles prennent plutôt le chemin le plus court pour rentrer.
L'espace public serait donc un espace qui deviendrait privatisé par les hommes la nuit ?
Et il n'y a pas que la nuit, Hervé. Dans ce documentaire, c'est en fait l'espace public tout entier qui va apparaître comme divisé selon le genre. Loin d'une topographie de la peur, c'est une cartographie des déplacements au féminin qui va être dessinée, avec l'espérance de nouvelles pratiques.
La ville à l'épreuve du genre. Qui occupe l'espace sonore ? Là, celui que nous écoutons, c'est Nicki Minaj, fameuse rappeuse bling bling qui revendique dans ce tube son postérieur proéminent. D'ailleurs, elle ne promène pas seule son arrière-train, mais avec une bande de filles, de naughty naughty girls, très très vilaines, car le droit à la vulgarité, de ne pas être une fille rangée, tient de la conquête, tout comme la rue et son lot de gros mots, provocations, joutes verbales. Le néo-black féminisme des rappeuses aux fesses charnues, ostensiblement agitées, coupe le souffle du type collé au mur d'à côté, qui peut aller se rhabiller. Ok, les filles traversent la rue, même plus peur, sortent avec ou sans permission, la ville à première vue est acquise. Arrêtons-nous, allons à rebours, observons plus attentivement les usages. Les femmes traversent la rue mais ne s'y attardent pas. Elles vont quelque part tandis que les hommes occupent le terrain, s'y postent, y jouent, bref, ils y sont conviés.
Pour aller où ? Barbès, c'est dangereux, faites attention madame.
Pourquoi vous voulez faire peur ?
Vous êtes tous les bienvenus ici au Square Léon.
Il y a un terrain de foot,
il y a un terrain de basket. Il y a un petit jeu pour les enfants, il y a une grande place, il y a des tables de ping-pong, il y a une fontaine, il y a tout ce qu'il faut. C'est un beau square.
Il manque plus qu'on enlève les caméras.
Là, si on regarde les terrains de sport, on voit sur le terrain de basket 5 jeunes hommes qui jouent au basket. Et juste en contrebas, quand on regarde le terrain de foot, il y a une dizaine de garçons.
Marianne Blidon.
Donc on a des espaces de jeu. Et ces espaces sont entièrement masculins. Alors si on se retourne, on voit du côté des jeux d'enfants, là par contre, des femmes, dont on ne sait pas forcément si ce sont les mamans ou les gardiennes de ces enfants en bas âge, qui accompagnent les enfants à la fois pour se promener et pour jouer. Alors si on regarde un petit peu plus loin, il y a aussi les tables de jeu, et là il y a trois hommes âgés qui sont en train de jouer aux dames. Voilà, donc c'est un espace intéressant parce que c'est un espace qui est ouvert à tous, c'est un espace qui est public. Et en même temps, c'est un espace qui ne va pas être utilisé de la même manière par les hommes et par les femmes, et par les hommes selon l'âge qu'ils ont. Et on a comme ça des différences assez lisibles dans l'espace.
Lorsqu'on met en place de l'équipement public et qu'il est fréquenté par deux tiers d'hommes pour un tiers de femmes, alors on doit se poser la question de savoir le dévoiement de cet équipement et pourquoi l'impôt n'est pas redistribué à égalité entre les filles et les garçons. C'est comme si vous avez des hôpitaux qui étaient fréquentés à 90% d'hommes. Vous direz, mais c'est pas possible, les femmes sont pas malades.
Edith Marouet-Jules.
Et là, les femmes, elles n'ont pas le droit d'avoir du loisir, elles n'ont pas le droit d'être sur l'espace public. Elles n'ont pas envie, elles n'ont pas cette liberté-là. Donc voilà, c'est la question des chiffres. C'est la question de l'opérationnalité d'égalité. Et c'est aussi une mesure. Voilà, en disant, ben voilà, ben, aujourd'hui j'en suis là, demain j'en suis où par rapport à cette question-là. Et ça demande toute une marche, une mise en œuvre pour arriver à ce qu'on appelle l'égalité réelle. Parce que au-delà de la question égalité, il y a des filles et des garçons, donc l'équipement doit servir à tout le monde, il y a aussi la question du projet politique. Quoi. Est-ce que l'espace public est un espace aussi de relations qui questionne la violence de la relation ? hein, c'est-à-dire dans laquelle aussi on peut apaiser, tempérer. Est-ce que le fait qu'il y ait de la mixité dans l'espace public, c'est pas bien plus performant pour la tranquillité publique que ne l'est le cloisonnement des hommes dans un city-stade?
Alors, sur le terrain de sport Luquet, c'est le City Stade du Haut de Belleville qu'on vient observer tout le temps. On se demande quand les filles ont le droit de jouer ici et c'est pas souvent. Mais bon, puisque on a dit aux garçons qu'on voulait canaliser leur énergie, ils ont pris l'espace. Ils se le sont appropriés et ils ont toute légitimité à le faire. C'est là où on voit aussi qu'il y a des enjeux, où on crée ces espaces d'exclusivité.
On les suggère.
On les suggère, ben oui. Et puis après, ben, une fois qu'ils sont appropriés, la légitimité est faite. Et l'illégitimité des filles aussi.
Vous voyez jamais des filles venir jouer un peu des coudes ici?
Il y a parfois une fille qui rentre dans le groupe des garçons. Et sinon, elles sont autour, elles regardent.
Vous opérez souvent cette sorte d'un petit peu de veille sur le partage des espaces urbains?
Ah ben oui, c'est absolument essentiel. Parce que nous, on travaille sur la question de la réalité et du sentiment. Alors le sentiment peut nous faire dire beaucoup de choses. Ici, si on comptait maintenant, je pourrais dire que le sentiment, c'est que c'est mixte, parce que je vois un homme et une femme passer. Maintenant, si je reste ici et que je compte toute la journée le nombre de personnes qui vont passer, peut-être que les chiffres vont me dire tout à fait autre chose. Donc c'est très intéressant de revenir sur les lieux, avec différentes temporalités, pour voir aussi ce qui se passe autour du lieu, c'est-à-dire est-ce que ce lieu est évité, est-ce qu'il est contourné, est-ce qu'il y a des dynamiques entre le lieu et le reste de l'espace public, par exemple.
Si je te lance la main. Allez, 1, 2, t'es prête? T'es prête? 3.
Allez. Il est 10h. Rotonde de la Villette, entre la station Jaurès et Stalingrad. Une grande coulée de gravier, point de jonction entre deux quartiers. Le sol est plat, pas de relief, pas de jeu, une zone sans fonction. Un jeune handicapé et sa mère. Des dames très âgées, seules. Un terrain ouvert à la vulnérabilité, aucune excroissance de mobilier urbain pour occuper les agités de la ville.
La ville, traverser l'espace public, c'est vraiment pouvoir la vivre avec les cinq sens. On peut fermer les yeux et se dire qu'est-ce qu'on entend. On a les cris des enfants, on a les oiseaux, on n'entend presque plus la rumeur de la ville. On n'entend plus de voitures, il n'y a plus de camions. Donc le calme existe aussi dans cette ville, mais souvent on l'oublie, parce qu'on est porté par le regard. On va plutôt identifier que là, sur la place, il y a le moteur qui a une camionnette, et puis des hommes qui passent, à vélo, à pied, avec des écouteurs sur les oreilles, en survêtement. Enfin, le jogging, c'est intéressant. On a vu passer un coureur qui a peut-être traversé la ville. Beaucoup de femmes courent aussi dans Paris. Souvent, tout le monde est un peu dans son monde, avec les écouteurs sur les oreilles. Va prendre la coulée verte, aller au bois de Vincennes, revenir, utiliser tous les chemins. Et Paris se prête à ça, à trouver des cheminements verts pour courir. C'est vraiment l'activité un peu universelle quand même. Où là, je ne vois pas trop de différence entre les femmes et les hommes en termes de sport. Le bois de Vincennes est suréquipé. Il est traversé de partout. Il a des routes de partout. Il est très difficile de faire un petit bout de chemin sans avoir à croiser des voitures ou des vélos, par exemple. Il y a ce circuit vélo. Les hommes, d'ailleurs, circulent à toute vitesse sur ce circuit. Ils ont même réclamé des feux. Ils auraient voulu que les piétons s'arrêtent pour les laisser passer. Donc,
pas de poussette, là.
Non, ça a été la guerre. C'est pour dire non, c'est pas possible. Donc, c'est curieux, ce bois. Il est tellement domestiqué. Alors à la fois, c'est quand même un poumon vert, c'est un lieu pour aller courir. Les femmes, par exemple, ne restent qu'à la périphérie. Elles promènent les chiens, les enfants, elles courent seules. Mais dès qu'on rentre dans le bois, il y a de moins en moins de femmes. On arrive sur les espaces sportifs, on voit les hommes qui jouent au foot. les Indiens et les Pakistanais même qui se retrouvent pour jouer au cricket entre hommes et qui font des petits barbecues locaux. Puis la nuit, la prostitution. Donc voilà, il y a cet ensemble de choses dans le bois de Vincennes qui est on ne peut plus urbain. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il pourrait être même encore un peu plus libre s'il était moins domestiqué, c'est-à-dire que si on enlevait un peu des routes, si on enlevait un petit peu des fonctions, de façon à ce que les terrains vagues puissent être utilisés de différentes manières.
On est à droite du lac Daumesnil. On est à un endroit où il y a énormément d'arbres. On a tendu des fils entre les arbres. On en a quatre pour l'instant. Ça se prénomme des slacklines. C'est pas réellement des fils, on va dire que c'est plutôt des gros rubans tendus. Et on fait les funambules dessus. Donc on remplit énormément l'espace. Et on s'amuse à travailler notre équilibre.
Vous venez, vous, de temps en temps, au bois de Vincennes?
Oui, pour faire du vélo un peu, quand il y a moins de monde.
Est-ce que vous allez jusqu'au cœur du bois?
Un peu plus, mais je ne vais pas réellement dedans.
Pourquoi?
Je ne vais pas au cœur du bois. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui se regroupent ici. Et au cœur du bois, c'est un lieu qui est beaucoup plus mystérieux et sans personne.
Il y a différentes hauteurs.
Oui, celles-ci sont beaucoup plus difficiles.
Ouais. C'est beaucoup plus difficile. Oh, c'est pareil.
Oui, parce qu'elles sont plus longues et beaucoup plus souples. Non, c'est
sur cette corde, je suis rassurée. C'est un côté zen, relaxant. Il faut être très très concentré pour rester en équilibre sur la corde.
Nous sommes sur les hauteurs de Paris. Devant nous, eh bien, hélas, la brume. Mais normalement, on pourrait apercevoir, je crois, jusqu'à la tour
Eiffel. Le soir, c'est très beau. On se fait happer quand on passe ici le soir. Moi, si je devais définir ce paysage-là, ce qui m'intéresse surtout, c'est la respiration. J'ai été élevée à la campagne et quand j'ai besoin de respirer, je viens ici. C'est un moment où la vue nous aspire, donc il y a inspiration, aspiration, et c'est vraiment donné à tous. Ça, c'est très important, cette question d'espace public. Quand on partage, comment est-ce qu'on partage les choses et comment est-ce qu'on arrête de les enfermer? Ici, on est sur de l'ouverture. Nous marchons rue des Couronnes. Je suis super contente parce qu'on a fait une action, Même pas peur, c'est une action où on met des slogans dans la rue, dont le slogan Même pas peur, pour dire qu'on va reposséder la rue. Et ici, on avait installé tout un slogan sur le mur, sur des feuilles de livres, enfin, au bonheur des dames de Zola. Et sur chaque feuille, il y avait une lettre. Et alors, les feuilles sont restées. Mais les lettres ont disparu, donc je pense que notre processus n'est pas très au point.
Mais ce sont des feuilles vraiment collées à la main? Enfin, comment ça se passe?
Oui, en fait, on les colle avec du papier peint. D'ailleurs, si on les touche, c'est gluant.
C'est parce que c'est vraiment des pages de livres.
Oui, c'est des pages de livres. Et là, il y en a plein qui sont tombées parce qu'il n'y a plus. Et du coup, elles se sont un peu détachées. Parce que c'est vraiment beau. Le slogan qui avait été écrit ici, c'était « Quel que soit son genre, doit-on raser les murs pour lire la ville en braille ?» Et là, j'ai été contente de voir que 15 jours après, c'était toujours là. Je me disais, les gens qui font le nettoyage de la ville vont avoir tout enlevé. Et non, c'est là. Elle avait peur de lui. Elle dépêcha son travail si vite qu'il fut embarrassé pour lui en donner d'autres.
Des dés de soie à coudre et dentelles à réparer. Au bonheur des dames, oui.
Au bonheur des dames. Au bonheur des dames, c'est un outil extraordinaire parce que ça nous remontre vraiment toute la construction sociale du 19e siècle dans laquelle on vit encore aujourd'hui. On se rend compte qu'on continue à reproduire. On voit bien que les femmes dans la ville sont dans les espaces commerciaux. Il m'est arrivé de faire des observations à Châtelet, par exemple. Et là, on voit beaucoup de femmes, parce qu'on est vraiment sur la zone du shopping, on est sur la zone de chalandise. Et au bonheur des dames, nous disait déjà ça. Il fallait capter les femmes, les amener sur la zone de chalandise. Donc on voit que toute cette installation du 18-19e siècle, elle est toujours intégrée chez nous. On l'a toujours en nous. et que cette notion de femme traversant la ville et d'homme occupant la ville est une réalité encore aujourd'hui et qu'elle s'est bien construite à ce moment-là. Donc c'est très intéressant pour nous de travailler sur ces textes.
Excuse me.
Oui.
Can you tell me the way to the Samaritan, please?
Comment?
La Samaritan, s'il vous plaît.
Par là.
Merci.
Décidément, tout le monde sait qu'on trouve tout à la Samaritaine.
Encore une autre? Oui.
Il n'y a pas des foules de rue Vietton, c'est surtout les galeries qui sont intéressantes. Autour de l'opéra, il y a toute une série de galeries intérieures, mais qui sont publiques. Et des rues piétonnes, en fait, il y en a très peu. Enfin, ils ont dû en organiser certaines, mais il y en a quand même très peu. Moi, personnellement, j'aime bien marcher, alors ça m'arrive assez souvent de me balader dans Paris comme ça, sans trop tenir compte des métros. Et j'ai une amie, elle téléphone, elle dit je suis dans le 13e, je rentre à pied. Et c'est quand même pas tout près, le 13e d'ici.
Où sommes-nous ici?
On est à Ivry, en plein centre-ville. Enfin, tout ce quartier a été rénové par morceaux. Et il y avait deux architectes dans le coup, c'était essentiellement Renaudy et moi.
Et moi, René Gaillousté. À l'envers de la ville construite par les hommes et leurs gestes monumentaux, à Ivry, une ville moins patrimoniale qu'une banlieue rouge expérimentale, laboratoire de l'invention sociale et urbaine, l'architecte crée des quartiers de ville, des morceaux d'urbanité gigogne, dès les années 60. Imaginez un peu. Un ensemble pyramidal composé de patios, de loggias, la rupture avec Le Corbusier et sa typification, ses intérieurs cellules, est consommée. René Gaillousté décloisonne les appartements, défonctionnalise les espaces, offre du hasard, des formes géométriques inattendues, des terrasses jardins suspendues et des intérieurs tous distincts.
Il y avait une directrice d'office d'HLM, elle existe toujours, mais elle n'est plus directrice de l'office d'HLM, à Ivry, qui s'appelait Madame Laluc, et qui était passionnée par le travail de Renaudy et le mien. Et ça a beaucoup contribué à ce que le centre-ville existe. Parce qu'il y a des endroits, enfin moi j'ai travaillé quelquefois pour certaines villes nouvelles, où les gérants de la ville nouvelle savaient ce qu'ils voulaient et l'imposaient aux architectes. Et il y avait beaucoup, beaucoup moins d'ouvertures possibles et beaucoup moins de choses intéressantes qui se faisaient, enfin selon moi.
René Gaillousté, qu'est-ce que vous avez pu vous autoriser à cette époque-là? Quel est le geste architectural que vous avez pu vous autoriser, puisque vous bénéficiez de cette liberté-là?
On a pu s'autoriser, par exemple, de faire référence à Corbu, de faire complètement l'impasse sur ce qu'on avait appris à l'École des Beaux-Arts. J'ai pris un parti, c'était de construire des logements tous différents. Par exemple, dans cet ensemble de logements où vous êtes, il y a 136 logements, il y en a 136 différents. Et cette liberté-là, bien sûr, il faut que le maître d'ouvrage l'accepte. Et il sélectionnait un certain nombre de logements. Au lieu de leur dire « vous allez avoir un P3 ou un P2 ou un P4 », il leur présentait 5-6 logements et il leur demandait de choisir là-dedans. Ça supposait un gros travail de leur part, naturellement. Et ils ont joué le jeu d'une façon très, très intelligente.
C'est cette idée merveilleuse de l'exigence pour tout le monde, l'art pour tout le monde. Hein, c'est un petit peu cette idée-là.
Oui, c'est gentil de dire ça, mais c'est... Enfin, on travaille beaucoup plus terre à terre, hein, dirons-nous, ou dalle à dalle. Et aussi avec pas beaucoup d'argent pour construire, bien évidemment. Ce qui fait que le béton brut est devenu un parti pris, parce que justement, on voulait pas dépenser d'argent à barbouiller de peinture un bâtiment. Donc, on avait des entreprises qui étaient assez, responsables pour faire un béton convenable, qui n'avaient pas besoin d'être ravalés après. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui disent « quand est-ce que vous peignez ?» Ça, c'est très fréquent.
Vous aimez vivre dans un bâtiment que vous avez construit ?
Oui, ça me plaît, bien sûr. J'ai jamais atteint le centre de Paris, ni même les abords de Paris. Mon domaine, c'est la banlieue. Finalement, c'est pas mal d'avoir des terrains comme ça libérés, assez importants, parce que ça permet de faire en même temps un bout de ville et puis du logement. On n'est pas cantonné dans un espace contrôlé. Et ça, c'est pas mal. Je crois que c'est chez moi qu'on sonne.
Oui, je crois.
Excusez-moi, oui, je crois que...
Vous visitez souvent les appartements et les logements sociaux que vous avez construits, René Gaillusté ?
Assez rarement, parce que les gens sont sympathiques quand ils ont une fuite à leur évier, ils ne viennent pas me chercher tout de suite, c'est très bien. Mais oui, j'en connais, puis j'ai des amis et des relations dans le coin. J'habite là depuis une éternité, je ne sais même plus combien de temps ça fait. J'habitais là en mai 68 déjà. Et ça, je l'ai construit après mai 68. Et peut-être d'ailleurs que les formes plus libres que les tours, c'est un peu lié à mai 68, enfin à la façon dont les gens ont réagi à cette époque.
Je commençais d'abord par planter des arbres. Des arbres, de la verdure.
Non mais attends, je te demande quand même de loger des gens.
On pourrait lui faire des choses magnifiques, pleines de joie et de chants naturels.
On parle dans votre travail d'imbrication des espaces. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, on parle d'imbrication des espaces parce que ce que j'essaie de faire systématiquement, ça se voit d'ailleurs dans ce logement-là, c'est que les choses se succèdent naturellement et qu'il n'y ait pas une sorte de couloir qui distribue des éléments. Vous ouvrez la porte, vous avez la salle à manger, vous ouvrez une deuxième porte, il y a la cuisine, vous ouvrez une troisième porte, il y a une chambre, etc. Et c'est une contrainte qu'on se donne, et c'est pour ça que la salle de bain et le WC sont ici, ouverts finalement sur la salle à manger, comme vous pouvez voir. Mais moi, ça ne m'a jamais gêné parce qu'il y a quand même l'escalier qui crée quand même une rupture. Et ça crée une circulation par rapport au lieu de vie.
Pour les femmes des années 70 et 80, c'était impensable d'être enfermée dans des espaces. Donc vous avez décloisonné un petit peu les logements.
Oui, bon, il y avait sans doute l'idée que la femme n'a pas à être enfermée dans sa cuisine, mais c'était surtout une conception du logement comme une unité, qui ne soit pas une addition de petites pièces avec chacune une fonction, mais que ce soit un lieu où tout le monde puisse se balader. Par exemple, ici, un gamin, s'il fait du tricycle, il part de la porte de la cuisine, il va là-bas dans le fond, il a quand même 17 mètres à pédaler. En soi, c'est pas fonctionnel, mais c'est des choses qui sont plus vivantes que d'avoir un cloisonnement avec chacun derrière sa porte à faire ce qu'il veut. Là, il y a vraiment un parti pris d'espace ouvert. Ceci dit, le fait qu'on fasse des logements tous différents, ça modifie quand même les choses par rapport aux gens qui font un P2, un P3, un P4 et qui les empilent, vous voyez. Ça fait quand même des logements beaucoup plus vivants et qui sont liés à la volumétrie des logements. Parce que comme on veut avoir des terrasses, il y a presque obligatoirement un système plus ou moins pyramidal, enfin plutôt moins que plus, mais enfin quand même avec ce retrait successif. Et comme on tenait beaucoup à ces espaces extérieurs, ça nous a amené à avoir des logements qui étaient plus des morceaux de ville. Ça, c'était un terme qu'utilisait Renaudy. Il disait, il faut pas faire des logements, il faut faire des morceaux de ville. Parce que, à l'intérieur du même bâtiment, on peut avoir des logements, mais on peut avoir, comme ici, une quarantaine d'ateliers.
Il y a des coexistences entre habitat, travail...
Enfin, c'était un peu dans l'air du temps. Quand ils ont construit Grenoble, ils pensaient beaucoup à ça. La communication entre tout ce qui sert aux gens et puis leur habitat. À l'intérieur même de chaque bâtiment, d'avoir des choses qui relèvent d'autre chose que du logement. Et dans des bâtiments comme ceux-là, qui ont des formes beaucoup plus complexes, on pourrait imaginer qu'il y ait une partie de cet immeuble qui soit par exemple une école. Enfin, il y a beaucoup de possibilités quand on fait de l'architecture. Et moi, ce qui m'a toujours déplu, c'est cette idée de la répétitivité. On ne voit vraiment pas pourquoi c'est plus difficile de faire 136 logements différents que de faire 136 logements pareils. C'est le même boulot pour les entreprises. Et quand on discute avec un chef de chantier, pour eux, c'est la même chose. Le chantier se déroule à l'endroit où on le construit. Et le fait que chaque niveau soit différent, pour eux, c'est pas un problème particulier.
Que souhaiteriez-vous renouveler dans le tracé urbain, c'est-à-dire le lien entre le bâtiment et la rue et l'espace ?
Je pense que ce que j'essaierai de faire, c'est de rendre des contacts plus généraux entre l'espace public et puis l'espace privé. Par exemple, mettre systématiquement des petits jardins privés au rez-de-chaussée, on pourrait le faire. Hein, et ça serait vraiment un lieu de contact intéressant. Par exemple, Renaudy, lui, quand il parlait des terrasses, il disait « les terrasses, c'est formidable, ça permet de connaître son voisin ». Il disait « là, mon voisin est derrière le mur en parpaing qui n'est pas très haut et qui sépare deux terrasses et on peut bavarder sur les terrasses ». Mais en même temps, moi je pense que les terrasses, c'est beaucoup plus qu'un élément de contact avec le voisin, c'est plutôt un élément de protection. Enfin ça c'est mon point de vue.
Vous êtes prête à imaginer des bâtiments avec des extensions que les habitants peuvent se réapproprier à leur manière ?
Oh oui, dans des quartiers qui sont vivants, cette extension est toujours potentielle. Sauf si vous êtes vraiment dans le coron pur et dur, dès que vous travaillez avec un rez-de-chaussée qui n'est pas personnalisable mais qui est public, il y a un usage public. Alors ce qui est l'avantage d'aménager autre chose que le logement, d'aménager les abords du logement, c'est qu'on ouvre la porte à des possibilités qu'on n'a même pas imaginées nous-mêmes. Ça c'est une bonne chose. Et on ne peut pas le faire dans un logement où il y a empilement. Alors là, les terrasses jouent un peu ce rôle. Oui, on discute quelquefois entre gens des terrasses. Quand on étoile de la terrasse au printemps, souvent on voit « Ah, vous avez planté ça !» Sans connaître vraiment les gens, d'ailleurs.
Vous nous montreriez votre terrasse, vos terrasses ?
Si vous voulez, mais c'est pas la bonne saison. On descend peut-être ? Alors, méfiez-vous, il y a 5 marches, là. Alors, on va se mettre au soleil, il fera meilleur.
C'est un vrai jardin suspendu.
Voilà, voilà, oui. J'ai planté le cerisier qui est dans le fond, là-bas, mais celui-là, il est venu tout seul. C'est peut-être un rejet de l'autre, d'ailleurs.
Nous sommes à quel étage ?
On est au 4e, c'est pas tellement haut. Mais on pourrait être au 8e hein, aussi facilement. D'ailleurs, en haut des tours, ça correspond à des 15e ou des 18e étages, il y a un jardin public. Mais qui est public et qui a ce sens. Il est trop petit finalement à l'échelle d'une centaine de logements. Alors il y avait une concierge qui allait y prendre des bains de soleil, elle avait parfaitement raison. Mais là la terrasse est assez grande, elle ne fait pas loin de 100 mètres carrés, ce qui est bien. Parce qu'il peut pousser des choses, et même si vous ne vous en occupez pas, ça pousse.
La sorte, là ici, commence à sortir.
À l'heure du Grand Paris, les coutures entre le dedans et le dehors de la capitale s'effacent. Peut-être que le geste de René Gayousté atteindra bientôt la capitale, par capillarité. En attendant, on mesure le taux d'occupation des espaces publics pour les remplir, en y ajoutant ici un banc, là une barre de traction, là un tourniquet, une poubelle. Fonctionnaliser les lieux, compartimenter les espaces, différencier les usages, privatiser et sécuriser les entrées et sorties, produire des seuils, des sas, bref, contenir la peur. À quel moment on entre dans l'espace public ?
Quand on sort de l'espace privé. Et d'ailleurs, c'est une notion qui est très importante, je travaille beaucoup dans mes travaux, parce qu'on a tendance, je trouve, à être dans l'évitement de sortir directement dehors. Quoi. C'est tout le travail qui a été fait, par exemple, dans les quartiers populaires, où on a construit ces espaces qu'on appelle les résidentialisations des pieds de tour, qui sont en fait des espaces intermédiaires, hein, qui sont semi-privés, semi-publics, où quand vous descendez de votre immeuble, vous avez une bande d'espace vert qui est clôturé, et puis ensuite vous arrivez dans l'espace public sur le trottoir. Quoi. Et cette bande, elle n'a aucune utilité sinon de provoquer ce sas-là, puisqu'on ne peut ni jouer avec les enfants, ni faire un barbecue. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question sur la question de l'usage de la ville par les femmes et par les hommes, puisqu'on sent quand même qu'il y a une forme de préparation à sortir, si vous voulez. Et les femmes aujourd'hui, elles sont encore contraintes. Elles ne peuvent pas innocemment franchir le seuil. Avant de franchir le seuil, elles vont se demander où elles vont aller, dans quelles conditions, comment elles doivent être habillées, qu'est-ce qu'elles doivent éviter, qu'est-ce qu'elles vont faire, comment elles vont répondre. Elles vont seules, les femmes, parce que d'abord, elles n'ont pas le choix, parce qu'il y a plein de femmes seules. Mais elles vont effectivement préférer être en groupe pour sortir le soir. Elles vont pas s'autoriser à boire un verre dans un café, même la journée. Être seule à boire une bière, une terrasse de café. Voilà, donc c'est plus ces questions. Oui, il existe encore des injonctions et il existe surtout une inégale liberté à la ville.
Thank you.
Aujourd'hui, avec nous, avec le collectif Stop Harcèlement de Rue, vous allez pouvoir voter pour le pire relou. Nous sommes un collectif qui existe depuis un an et nous luttons contre le harcèlement de rue. Et le harcèlement de rue, ce sont les insultes, les attitudes qui empêchent les femmes et les personnes LGBT de profiter de l'espace public en toute tranquillité. Insultes, jugements sur la personne, notes, faux compliments, tentatives d'attouchement, course-poursuite sur plusieurs mètres, demande de téléphone portable insistante. Voilà, tout ça c'est le harcèlement de rue et c'est insupportable. Donc nous allons vous présenter
ça aujourd'hui... Ça concerne toutes les femmes, indépendamment de leur look, de leur allure, de leur âge.
Donc le harcèlement, ça touche tout le monde. En général, ça commence vers 12 ans et ça se termine à la mort. Et donc, en gros, il y a des femmes qui... On peut avoir tendance à penser que c'est parce qu'on s'est fait jolie qu'on est harcelée. Et donc j'ai des amies qui ont décidé de sans les dire pour ne plus subir le harcèlement. Et on s'est mis à leur dire qu'elles étaient moches. Donc en fait, le harcèlement, c'est pas lié au fait qu'on plaise ou pas à la personne. C'est vraiment... un rapport de domination et du fait que les femmes sont considérées comme non légitimes dans l'espace public et que du coup on peut se permettre n'importe quel commentaire, elles sont là pour être observées, commentées, et donc qu'on soit jolie ou enfin considérée comme jolie ou qu'on se soit fait de belle ou pas, on subit le harcèlement de la même façon.
C'est assez bizarre de considérer qu'on est par exemple 4 hommes et qu'on va dépasser un piéton, une femme ou un homme et qu'on va lui dire, viens, monte, on va faire des trucs. Est-ce que vous, ça vous fait envie, vous, en 4 ans, vous demandez, viens, monte, on t'emmène n'importe où pour faire des trucs.
Est-ce que d'avoir conscience de la violence possible des hommes dans l'espace public, ça vous empêche d'aller dans cet espace public, de parcourir les rues?
On a tendance à prendre des mesures pour essayer d'éviter le harcèlement, donc notamment éviter certaines rues. Quand on va dans des rues où on sait qu'il y a beaucoup de harcèlement, on essaye de faire attention à notre tenue, on met des écouteurs, mais en fait ça aide pas du tout. Donc du coup c'est un peu des palliatifs et aussi il y a un effet secondaire à ça, c'est que si on n'a pas pris ces précautions et qu'on est harcelé, on est considéré comme responsable du harcèlement qu'on a subi. Si on met une jupe courte et qu'on est harcelé et qu'on s'en plaint, on va nous dire « bah oui, mais il fallait t'habiller autrement ». Et en fait, il m'a sorti « t'es bonne » en passant, mais assez bas. Et le temps que je réagisse, il était en train de partir. Donc j'ai fait demi-tour, lui couru après pour lui dire que c'était pas normal. Et il m'a vu arriver, il est parti en courant.
Vous avez retourné la peur contre la...
Comme quoi, ils sont pas si courageux qu'on croit. Manu. Kia.
La peur dans la ville, alors, est-ce qu'elle est si palpable?
Oui, je crois qu'elle est palpable, mais surtout, elle est tellement construite. On a engrangé cette sorte de millefeuille qui est en nous et dont il faut se débarrasser tout doucement. Et c'est pas facile. Quand on dit même pas peur, l'idée, c'est quand même de l'affirmer. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Mais ça veut dire qu'il faut quand même franchir le pas ou s'affranchir en fait de l'angoisse d'être dans la rue, de l'angoisse de prendre le métro. Or, il y a tellement de fois où on nous a dit de ne pas le faire que c'est devenu un fait de ne pas sortir. Et si on fait un micro-trottoir auprès de femmes, il y en a plein qui vont dire « mais j'ai pas peur d'aller dans l'espace public ». Mais en même temps, quand on creuse un peu, ils vont dire « mais j'y vais pas à cette heure-là » ou « je vais pas y aller le soir » ou « si je rentre, on va plutôt rentrer en groupe » ou « il y a des espaces que je vais contourner ». Donc on voit bien qu'on a intégré beaucoup de choses, qu'après, le vide aussi peut créer de l'angoisse. J'ai dit souvent, pour moi, il était plus facile d'aller visiter des amis à Pigalle que de rentrer chez moi tard, dans le 13e à l'époque, quand j'avais 20 ans. Dans une rue déserte. Donc il y a plein de facteurs autour de la peur. Et puis en plus, c'est un outil de contrôle. Donc voilà, il faut...
Des femmes,
ben oui. Donc il faut déjouer tout ça. Et leur dire, mais non, leur place n'est pas à la maison. L'espace public n'est pas plus dangereux pour les femmes que pour les hommes.
C'est vrai, ça?
Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, d'abord, c'est mécanique, puisqu'il y a plus d'hommes dans l'espace public que de femmes. Il y a plus d'hommes qui se font agresser dans l'espace public. Après, si on parle d'agression verbale, là, dans ce cadre-là, on est dans le type de harcèlement, les femmes sont bien entendu beaucoup plus harcelées, et ça ne rentre pas toujours dans les statistiques, donc il faut le prendre en compte. Mais Le harcèlement est aussi lié au fait que les femmes ne sont pas jugées légitimes dans l'espace public. Donc on est vraiment dans une question de pouvoir. Le harcèlement, ce n'est pas du harcèlement sexuel, c'est du harcèlement de pouvoir, de domination. Donc pour échapper à ça, il faut reprendre cet espace. D'où même pas peur. Voilà. Ici, j'ai envie d'écrire ça sur le trottoir, c'est à moi, je le revendique. Et le fait de le faire, de s'affranchir d'un certain nombre d'injonctions, fait du bien. On est dans l'art de rue, donc là, pour le coup, c'est aussi dans cette reprise, cet art de rue qui communique et qu'on veut faire communiquer aussi sur la place des femmes dans l'art de la rue. Et il y a peu de tagueuses, il y en a. Et d'ailleurs, cette femme là qui est dessinée, enfin, c'est du papier collé, elle n'est toujours pas identifiée qui était l'auteur ou l'autrice. Il y en a plein comme ça.
C'est un élan vital.
Ouais, il y en a plein qui sont dans des positions, postures différentes, qui dansent. Et ça, c'est chouette quand on voit cette symbolique des femmes dans la rue et qui n'ont pas peur.
Observez lors de vos promenades des tags en ce moment sur le coin des rues ou des boulevards qui disent « même pas peur ». Vous les avez vus ?
Oui, j'ai vu « c'est même pas peur ». « C'est même pas peur de la rue, de quoi ?» À un moment, il y avait « j'aime » et ça nous amenait quelque part. Dans une rue, il y avait des « j'aime » qui partaient d'un côté, d'autres qui partaient de l'autre. Et ça nous amenait sur des portes.
Catherine Deschamps.
J'ai jamais bien saisi s'il y avait un sens à ça, mais...
Vous n'avez jamais poussé cette porte ?
Non. Elle était fermée. Portes cochères à Paris, maintenant, la plupart sont fermées. Les codes qu'il y a maintenant devant toutes les portes cochères ne créent plus ces sortes d'espaces intermédiaires qui ont existé quand même. Enfin, il y a plein de récits au 19e là-dessus. La ville est très éclairée. En tout cas, avoir une sexualité rapide pour des hétéros, hommes ou femmes, dans l'espace public parisien, c'est assez compliqué. Sauf des lieux très identifiés autour de l'ambassade de Russie, mais là, c'est des pratiques spécialisées, c'est autre chose. Et les gays ont, dans Paris et dans la plupart des grandes villes, des lieux extérieurs dans la ville pour draguer, se faire draguer, avoir du sexe rapide. Les femmes, qu'elles soient hétéros ou lesbiennes d'ailleurs, il n'y a pas l'équivalent de ces espaces-là. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que il peut y avoir du sexe n'importe où dans la ville, sauf que c'est pas si simple.
Finalement, vous nous dites que la circulation du désir est un peu entravée à Paris. Pas si simple d'être un sujet désirant à Paris.
Non. Comme il n'y a pas de ces lieux identifiés, ça fait que, y compris pour les rencontres sur le lendemain, les femmes que je rencontrais, donc qui avaient des histoires très courtes parfois avec des hommes, étaient obligées soit d'aller chez lui, soit d'aller chez elle, soit d'aller à l'hôtel.
Tu veux réellement que je te dévore ?
Oui.
D'accord. Seulement à une condition. Si tu fermes les yeux et que tu ne bouges pas, je te donnerai un
chat.
Du coup, circuler dans la rue le soir pour vivre son désir, est-ce que c'est toujours une transgression pour les femmes ?
Alors, c'est au départ peut-être pensé comme une transgression. Il y a un effort à faire. Et aussi un effort de gérer sa possible peur pour y aller. Les femmes que j'ai rencontrées, plus elles sont âgées, plus elles ont de partenaires aussi, c'est sans doute une variable importante, moins ça devient de l'ordre de la transgression, mais plus ça devient facile. Et c'était amusant de voir combien déjà les femmes qui avaient plus d'expérience rejetaient très facilement tout homme qu'elles trouvaient pas opportun, alors que les plus jeunes devaient acquérir. C'est vraiment... Ça se joue vraiment en termes d'acquisition de compétences. Elles avaient quand même une manière de repérer au loin qui est là. Alors là, il y a peut-être un peu limite. Mais même dans des postures, elles avaient tout appris qui faisait que de toute façon, elles n'avaient pas de problème. Et donc, j'avais repéré quelques bars plutôt populaires. Il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que dans ces bars, malgré tout, les femmes qui se permettaient de draguer étaient d'un niveau économique supérieur aux hommes qu'elles étaient susceptibles de rencontrer dans ces bars-là. Comme si, pour les femmes, malgré tout, il fallait quelque chose en plus, soit économique, soit culturel, pour se sentir autorisée à draguer. Mais il y a quand même, peut-être même chez ces femmes qui ont appris à se promener toute seule la nuit, quand même des stratégies qui consistent à préférer les lieux où, s'il y a un problème, bah, elles se disent « Oh, il pourra toujours y avoir un groupe, même si il n'y a pas de problème », et éclairé, et avec des possibilités de naviguer sur le trottoir, des trottoirs plutôt larges. Ça m'a étonnée, moi, ce goût pour les grandes artères, quand même.
Il faut être aguerri pour se promener, tout de même, la nuit.
Je ne sais pas s'il faut être aguerri, en tout cas... C'est sans doute un reste de représentation qu'un danger peut advenir. Même celles qui vont le plus dans la ville la nuit sont celles qui ont en quelque sorte acquis des compétences et qui ne pensent pas ou qui ne pensent plus qu'il y a un quelconque danger à se promener toute seule la nuit. Ce qui est plutôt une réalité statistique. Il y a, bien sûr, il y a des agressions, mais le lieu principal du danger pour les femmes, en fait, c'est pas la rue. C'est l'espace privé et domestique. Et donc c'est étonnant ce maintien de cette représentation qui consiste à croire et à laisser croire et à même faire en sorte que ce soit presque un dispositif, alors que pour les hommes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les hommes ont dit que l'espace public et la nuit, aucun problème, tout va bien. En fait, c'est là où il y a le plus d'agressions. Pour les hommes.
Pourquoi est-ce qu'on maintient pour les femmes cette peur du grand méchant loup ?
On peut supposer que c'est de l'ordre du contrôle, quand même, de ce qu'on attend d'une femme qui doit s'occuper de la famille, de quelque chose qui est replié vers l'intérieur. Même le bureau, moi je crois que dans une certaine mesure, le bureau aujourd'hui où vont beaucoup de femmes travailler comme des hommes, est un espace fermé. Et un espace où on peut encore contrôler les femmes. C'est une autre famille. C'est la famille économique, où tout le monde est bien content que les femmes aillent aussi pour compléter les revenus au départ.
Est-ce que tu sais de quoi sont faites mes journées ? Tu ne te l'as jamais demandé. Tu ne m'as jamais permis de parler de moi. Détourner la tête. Ennuyé, agacé, impatient. Qu'est-ce qu'on s'est dit d'important, toi et moi, durant toutes ces années ? Rien. Jamais. Non, jamais.
Et donc, sûrement, quand on regarde des femmes marcher, on les voit marcher pour aller, marcher pour être dans une utilité aussi sociale qui légitime leur occupation de l'espace public, parce que l'immobilité des femmes dans l'espace public relève encore d'images... de sexuation aussi, de disponibilité sexuelle.
La position ou la relation entre féminin et masculin pourra être égalitaire.
La pénétration, c'est un crime qui doit être puni d'une amende de 1 à 10 millions.
À quoi ça vous fait penser, cette idée du seuil ? Le seuil, c'est le lavoir, c'est-à-dire c'est des espaces où on est légitime, où c'est l'aire de jeu pour enfants, où c'est le devant de l'école maternelle ou de l'école élémentaire.
Le parc ? Oh, le parc, c'est le cimetière de ta jeunesse. Ah, vieux, je t'aimais. Comment dire, le parc pour enfants, c'est la prison pour adultes, clairement. Alors on se regarde comme ça entre condamnés à mort et puis on compatit. On compare nos peines entre adultes, hein, bien sûr. Oh mon Dieu, 3 enfants, 30 ans ferme, courage.
Vous voyez, par exemple, je pense aux espaces de jeux pour enfants. Moi, c'est un endroit... Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle dans les questions d'égalité femmes-hommes aussi sur l'espace public, ce qu'on appelle le reflet, quoi, la réflexibilité. C'est-à-dire, par exemple, on parle beaucoup des city-stades, des skate-parks, comme effectivement un espace d'occupation du masculin, ce que j'appelle moi une légitimation de la place des hommes et des garçons, donc dans l'espace central, etc. Et en reflet, vous avez ces espaces de jeux pour enfants, qui eux aussi sont clôturés, ce qui pose quand même une vraie question aussi sur, doit-on être enfermé pour jouer, mais qui sont aussi relégués, c'est-à-dire dans des espaces confinés, et qui deviennent espaces légitimes de fréquentation des enfants et par là même des mères qui encore accompagnent beaucoup leurs enfants au parc, qui interdisent à la fois, si vous voulez, un espace évidemment de jeu de football au milieu, donc la présence de ces jeunes garçons, cet espace, une possibilité de mixité, et à vice versa, elle l'interdit aussi sur l'espace de Citystad et du skatepark, parce que elles n'ont rien à y faire, et de toute façon on leur dirait, attendez, vous venez pas avec des petits là, vous allez vous faire écraser, c'est pas votre espace de jeu, quoi. Donc cette question de l'espace partagé, mais qui n'a pas de vocation, sauf celui du partage. Voilà. Mais ça peut exister, tout à fait. C'est-à-dire que au lieu de faire un city-stade, un skatepark, des aires de jeux pour enfants, vous faites un espace vert, dans lequel il y a des endroits pour s'asseoir, sur lequel, à un moment donné, on peut venir avec un ballon faire une partie de foot, on peut tirer une corde pour marcher sur un fil avec les enfants, on peut se coucher, on peut lire, voyez, enfin, et là, du coup, on est dans le conflit d'usage aussi, on y sera. Mais refuser le conflit d'usage, c'est refuser la mixité. C'est quand même différent, si vous voulez, d'avoir à négocier l'espace en disant, attends, bon, écoute, on y est tous ensemble, moi j'ai des enfants petits, on n'a qu'à partager, on n'a qu'à jouer un petit peu. C'est la question aussi, un petit peu, des couloirs pour les piétons, des couloirs pour les vélos, des couloirs pour les bus, des couloirs pour les voitures, quoi. Parce qu'à un moment donné, ces espaces-là, ils permettent pas la relation, quoi.
Voilà. Vous préférez qu'il y ait à négocier, justement. La négociation est intéressante.
Oui, la négociation et le conflit, ça fait partie de la relation. On dit aux femmes, ne sortez pas, vous avez, c'est effrayant, il peut vous arriver plein de choses, etc. Mais pourquoi ? Parce que il n'y a pas de femmes, parce qu'il n'y a pas de collectif, parce qu'il n'y a pas de relation, parce qu'il y a... Enfin, voilà. Et en même temps, ça dit aussi que tous les hommes n'auraient pas d'autre possibilité que d'être des agresseurs. Bien sûr que non. Ils ont d'autres possibilités de se positionner. Donc, voilà, cette question... alors, est-ce que voilà, l'espace que j'ai fait, il sert à quoi ? Ou alors, en tout cas, on peut constater, on peut dire, eh bien, il sert aux jeunes garçons pour se défouler et se positionner. Mais il ne sert pas aux jeunes filles, il ne sert pas la relation, il ne sert pas, voilà. Il ne sert pas non plus la question de l'égalité. L'égalité, c'est un concept politique en France, qui est le premier article de la Constitution française, donc il doit avoir une forme d'opérationnalité politique. Et il faut sortir de ces idées, être égaux, c'est ne plus être différent, pas du tout. Être égaux, c'est ne plus être inégaux.
Les Parisiennes écartent le jeu.
Et il y a toujours une solution, hein. Ouais, si c'est pas Georges Segama, Amraoui à nouveau, Amraoui qui va se retourner. Oh, c'était bien fait ça, à destination de Aslani, malheureusement.
Les Italiennes perdent vite le ballon encore. Hein.
Et puis surtout, les Parisiennes qui font courir les Italiennes sur ces phases de jeu sans ballon. Et justement, les filles de l'Inter Milan qui ont réalisé une vidéo censée casser un petit peu le cliché, tous les clichés autour du football féminin. Parce que c'est vrai, culturellement, le football féminin aussi doit faire face à certaines...
Un machisme.
Voilà, on peut appeler ça machisme, on peut appeler ça de n'importe quelle façon, mais en tout cas, c'est vrai que le foot masculin a pris une telle proportion, en Italie, que c'est compliqué pour les filles de se faire une place. Lindsay Horan qui est restée au sol, elle se tient le tibia.
Alors, elles ont fait quoi dans ce clip ?
Alors là, je ne pourrais pas vous
on
dire.
Sait pas.
Je vous invite à aller le voir. Je crois que c'était en fait une mise en scène de ces filles dans leur aspect femme, si vous voulez. Voilà. Donc, comme quoi, montrer qu'on pouvait être joueuse de foot et être une jolie fille, être féminine. Bon. Et puis, montrer aussi qu'elles jouaient
qu'elles
avec passion.
Ne se sont pas trop dévêtues non,
non
plus. Parce
voilà,
que
exactement. Il ne faut pas tomber. Oui, c'est vrai. C'était
les joueuses de l'équipe de France ont dû se dévêtir un petit peu, faire un calendrier pour qu'on commence à parler un petit peu d'elles. Ce qui est quand même
est triste.
Regrettable.
Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous.
Voilà, elles ont...
Marqué les rugby maintenant et fait pareil.
Oui, tout à fait. Ouais,
Et on va se quitter avec ce joli... Minois, celui de Kenza, excusez-moi, de Laure Boulot, bien sûr. Parce que j'aime bien Kenza Dali aussi. Ah, voilà, c'est l'intuition masculine qui se réveille.
Elle a fait une bonne rentrée.
Elles ont été plutôt intéressantes, ces joueuses du Paris Saint-Germain.
Personne ne me connaît alors que j'ai joué 10 ans à l'équipe de France, que je suis 8 fois championne de France et meilleure buteuse du championnat de France. Voilà.
Juste ça.
Juste ça. Et passionnée, et mon rêve serait de jouer au foot toute ma vie. Mais bon, et d'être une professionnelle du football. Elle semble professionnelle aujourd'hui, j'en suis ravie pour elle, mais à mon époque, c'était certainement pas le cas.
Nicolas Barre.
Observez, si vous en avez l'occasion. les femmes restent statiques, qu'elles soient à la tribune, qu'elles soient, elles, s'il y a un pupitre, elles restent au pupitre. Si elles sont assises, elles restent assises. Alors que vous verrez que les hommes ont tendance à être plus mobiles et à être plus dans la capacité à traverser les espaces. J'observe quand même la motricité tout le temps. C'est ma façon à moi de me dire, bon voilà, est-ce qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre du handicap qui a été construit par amour dans cette utilisation du corps. Si vous regardez autour de vous, un jour vous vous rendrez compte que déjà toute petite, même dans un parc, même si maman est là, la motricité de maman n'est pas la même et la motricité de la petite fille n'est pas la même. Et que ça, c'est quelque chose qu'on a construit par amour. C'est à force d'injonctions sur « ne te fais pas mal, attention, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça », ces injonctions différenciées entre les filles et les garçons qui finissent par faire qu'une fille, 1, ne bouge pas, 2, ne court pas, 3, vous dit qu'elle n'aime pas le sport, et quand elle est une femme adulte, va faire appel à des énergies décisionnelles, mentales, parce que les femmes, c'est très fort, ça a beaucoup d'énergie, mais jamais à l'énergie du corps. Donc en fait, elles n'utilisent pas un outil qui leur est donné en naissant, alors que les hommes n'oublient jamais de s'en servir.
Vous nous dites que pratiquement les petites filles, on les handicape, quoi. Elles ont un défaut de corps.
Mais oui, quand je vous fais la démonstration du jet de balle, et que je vous montre
la démonstration.
La démonstration du jet de balle avec un bras ouvert, étendu, qui part de derrière, qui se prolonge devant pour un garçon, c'est une amplitude totale, avec une épaule qui est dans toute sa motricité. Cette épaule-là, la petite fille, elle a la même quand elle vient au monde. Elle a la même chose, sauf que la sollicitation physique qu'on lui propose ne la met pas en position d'entraînement. Donc cette épaule devient petit à petit limitée dans son mouvement et finit par avoir perdu 80% de sa motricité puisqu'elle ne bouge plus l'épaule. On se limite à un geste de l'avant-bras et cette épaule ne sert plus à rien. Voilà, et cet handicap physique qu'on a construit par amour, ça devient ensuite aussi quelque chose qui construit cette perte d'estime de soi, cette perte de confiance en soi, que eux, les garçons, ils ont alimenté, construit. Quand vous lancez une balle et que vous la lancez à 2 mètres, vous vous dites, je vais la lancer à 3 mètres, je vais la lancer à 5 mètres, je vais la lancer à 6 mètres. C'est sans arrêt challenging, challenger la difficulté. Ma petite fille, hop, elle va jeter sa balle, elle ne la jette pas bien, elle est nulle. Elle arrête et elle va faire autre chose. Moi, je renvoie toujours à l'émotion première des parents hein, qui ont ce petit poussin là, qui vient de grandir et qui commence à tomber, se relever. Les parents s'en fichent de savoir si c'est une fille ou un garçon parce que c'est l'émotion qui consiste à faire en sorte que cet enfant il prenne son envol, il grandisse et qu'il aille à la conquête du monde. Donc le bonheur des parents est tout aussi identique quand il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Et bizarrement, de voir sa petite fille qui, dans la cour de récréation, quand on a un petit espace, ben les parents, ça n'inquiète plus. C'est comme si d'un seul coup, vous disiez, ben, votre petite fille, elle ne parle pas, c'est pas grave. Mais tout le monde s'inquiète quand une petite fille ne parle pas. Mais qu'une petite fille ne court pas, qu'elle n'utilise pas son corps, qu'elle n'aille pas à la conquête du monde, à la conquête de l'espace, ça n'interroge personne. La prise de conscience d'une perte de motricité dès l'âge de 3 ans pour une petite fille, ça ne choque personne. C'est-à-dire que tout le monde ne le voit et que ça ne heurte pas. Moi, pour moi, c'est une violence.
Qu'est-ce qu'on doit oser ? Qu'est-ce qu'on pourrait oser qu'on n'ose pas aujourd'hui, dans la rue, dans la ville ?
En tant qu'adulte ?
En tant que femme.
En tant que femme. Eh bien, déjà, si plus de femmes osaient aller dans la rue, plus elles seront nombreuses, plus les équilibres de force vont s'inverser. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On raisonne en tant qu'une. Je ne vais pas aller à cet endroit-là toute seule parce que finalement, j'ai peur. Mais en faisant en sorte que plein de femmes toutes seules décident d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, il y en aura plein dans la rue. Du coup, le rapport de force va s'inverser. Moi, je crois à ça. Donc, oser. Oser aller de l'avant, oser bouger, oser prendre les mesures de sécurité qui conviennent, mais ne pas se laisser enfermer dans la liberté que les autres nous accordent. Osons prendre la liberté qui nous revient de droit. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Merci à Marianne Blidon, sociologue, Edith Marvejoul, géographe, Chris Blash, ethno-urbaniste, René Gayousté, architecte, Catherine Deschamps, anthropologue, Nicolas Barre, footballeuse internationale. Attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Équipe technique Yves Le Horse, Assia Khalid. Au mixage, big up to Claire Levasseur. La ville à l'épreuve du genre, un documentaire de Nejma Bouakra et Christine Diger pour Sur les docks. Coordination, Irène Omelianenko.